Bonjour, vous écoutez Radio Campus Paris, les 14h. Nous sommes le lundi 18 juin 2018 et je dois lancer un appel. C'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est une semaine sur deux et pour encore quelques numéros, une rencontre avec des jeunes talents, d'où qu'ils viennent ou qu'ils aillent. Aujourd'hui, on parlera d'idoles des jeunes, de chanteurs abandonnés. Notre trio d'invités fait du théâtre. Et pour une fois, on est à parité dans ce studio, puisqu'on est deux hommes et deux femmes. Ça n'arrive pas à chaque fois, malheureusement. Je suis un peu mauvais sur la parité. Alors, autour de la table, il y a Émilie Vandenamel, Hélène François et Pierre-François Garel. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Alors, bonjour.
Pierre-François, vous êtes l'acteur.
C'est ça.
Émilie et Hélène, vous avez constitué en 2008 le groupe ACM. Où vous êtes, si j'ai bien compris, l'une et l'autre, actrice, auteur et metteuse en scène. Vous faites les trois.
Voilà, on fait
tout à fait ça.
Comment est né ce collectif? Je voulais commencer par vous demander pourquoi un collectif.
En fait, c'est parti du désir simple qu'on avait de travailler ensemble avec Hélène. On était spectatrice de théâtre, on a fait les mêmes études, donc on a fait un master d'études théâtrales et une école de comédiens. Et puis ensuite, à force d'aller au théâtre ensemble, on s'est dit qu'on allait monter des spectacles. Et comme on ne trouvait pas exactement notre bonheur dans les écritures qu'on lisait, on a pris un stylo et puis on y allait, quoi.
On commence par écrire parce qu'on n'est pas content des textes qu'on trouve?
Bah, nous, c'était un peu ça. Enfin, pas forcément content, mais ça ne nous paraissait pas coller avec nos désirs, notre sentiment intérieur, ce qu'on avait envie de dire sur un plateau. Voilà, on a pris le stylo, quoi.
Oui, je pense qu'à partir du moment où on se met à écrire quelque chose, c'est parce que y a un manque dans ce qu'on trouve, dans ce qu'on lit. Je pense que c'est pour ça qu'on choisit en fait de s'y mettre, de se lancer dans cette grosse aventure.
Je vais sûrement vous poser la question la plus bête et vous voulez parler ? Non, c'est j'ai des voix. Aujourd'hui, j'ai des voix. Je vais sûrement vous poser quand même la question la plus bête et qu'on a dû vous poser le plus grand nombre de fois. Est-ce que c'est dur d'écrire à deux ?
Ah. Alors oui et non. En fait, oui, parce que il faut être un petit peu quand même sur la même longueur d'onde. Donc c'est pas toujours facile d'être sensible, d'être singulière, en tout cas dans une écriture à deux. Et en même temps, je dirais que ça aide vachement parce que quand il y en a une qui doute, l'autre est là pour écouter. Et quand il y en a une qui a peut-être pas assez d'inspiration, enfin ça circule. Et donc c'est tout le temps en mouvement, ça s'arrête.
Et est-ce que un bon texte est un texte où on ne reconnaît plus la part de l'une et de l'autre, ou est-ce qu'il doit y avoir une espèce d'entité qui apparaît, qui est le mélange de vous deux, je ne sais pas comment l'appeler,
c'est
une
la
sorte
réécriture.
De golem, une sorte de golem qui émerge et qui est l'auteur et qui est ni l'une ni l'autre mais qui est les deux. Ou est-ce qu'il y a malgré tout, vous quand vous lisez, vous savez ça, vous dites ça c'est moi, ça c'est.
Oui non, ça c'est ça aussi, c'est de trouver la singularité de nos deux écritures ensemble conjuguées quand à un moment ça devient. Par la réécriture constante, la réécriture, la relecture, que ça devient notre écriture à toutes les deux.
Et vous accueillez parfois des tiers
dans
l'écriture, par exemple. Vous avez déjà écrit à plus de deux?
Non, je crois pas.
Non, on n'a pas écrit à
non,
trois.
Non, on n'a pas écrit à trois. Après, c'est vrai que, par exemple, dans le travail particulier de la dernière idole, la rencontre avec Pierre-François a été assez importante. Non pas qu'on ait vraiment écrit ensemble, mais c'est-à-dire le travail du plateau nous a amenés
à retravailler le texte
forcément. C'est peut-être aussi c'est dû à la rencontre et au format, parce que le solo, c'est vrai que c'est l'acteur est très important.
Alors justement, vous allez jouer une pièce à Angers jeudi 21 juin à 19h au Grand Théâtre. Cette pièce s'appelle La Dernière Idole. C'est une œuvre de fiction avec un personnage qui s'appelle le chanteur, et ce chanteur rappelle quelqu'un qui est mort à la fin de l'année dernière.
C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé. Pour lui, cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il avait.
Donc c'est Johnny Hallyday, je pense que tout le monde l'a reconnu, même à Radio Campus Paris, où c'est pas forcément ce qu'on écoute tous les jours. C'est un hasard si c'est le chanteur fait penser à Johnny Hallyday ?
Non, pas du tout.
C'est des...
Non, c'était plutôt volontaire.
Parce que dans le dossier de presse et dans les articles que j'ai lus, que vous m'avez fort gentiment envoyé, on dit qu'il y a vous avez repris des morceaux d'interview. Non,
alors, non, pas exactement.
Faut se méfier de ce que disent les journalistes. C'est pour ça que c'est bien la radio. Souvent, au moins, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Oui. Je vois l'article auquel vous faites référence. Non, en fait, oui, c'est une œuvre de fiction, mais inspirée donc d'un personnage bien réel qui est Johnny Hallyday. Pour écrire la pièce avec Hélène, on s'est surtout fié à notre au désir qu'on avait de se rattacher à cette figure. On a lu très très peu. On a lu une biographie. Et on n'a pas forcément écouté d'interviews ou lu de choses. Voilà.
Ce qu'il faut quand même dire, parce qu'on pourrait croire qu'il y a une forme d'opportunisme chez vous, c'est que cette pièce, elle existe depuis très longtemps. Moi, je l'ai vue il y a au moins 2 ans à Paris et je crois qu'elle tourne depuis au moins autant.
Oui, c'est à peu près ça. On ne l'a pas du tout écrite, par exemple. Enfin, aujourd'hui, ça résonne beaucoup comme un hommage, forcément. Et c'en était certainement avant, mais bon, bah là, aujourd'hui, encore plus.
Ça me paraît important de dire que le texte date d'avant et que vous n'avez pas attendu qu'il meure pour écrire en disant il y a un truc à faire là.
Non, on l'avait fait avant.
Alors, vous Pierre-François Garrel, vous interprétez l'idole, vous interprétez le chanteur.
Oui.
Donc, quand on vient vous voir en vous disant vous allez jouer le rôle d'un acteur, le rôle d'un chanteur qui est ce chanteur-là, comment on réagit ? On se dit, elles sont folles, je vais faire autre chose, je ne réponds plus au téléphone.
Non, pas du tout. Toute nouvelle expérience est toujours très excitante, que ce soit pour jouer un chanteur ou un paysan dans la campagne américaine. Il n'y a pas d'a priori par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant par rapport à la trajectoire du texte, c'est qu'elles sont venues, je crois, en 2014 ou 2013, me voir dans un spectacle. Et puis à la fin, elles sont venues et elles ont dit « On a un texte, on aimerait bien faire une lecture avec toi ». Et au départ, ce monologue n'était absolument pas un monologue, en fait. C'est ça qui est aussi assez joli dans la trajectoire de ce spectacle qui avance déjà depuis quand même un certain nombre d'années, même s'il n'y a pas eu tant de représentations que ça. Mais il y a une maturation, en tout cas, qui se fait assez forte... chez nous tous.
Quand vous dites que ce n'était pas un monologue, c'est-à-dire que c'était une vraie pièce,
avec des personnages.
Oui, il y avait d'autres personnages, en effet.
Et donc, c'est en entendant Pierre-Louis Garrel jouer ce rôle que vous avez eu envie de le resserrer autour de lui ?
Pierre-François ?
Oui, pardon.
Non, pas de souci. je ne sais plus trop comment ça s'est passé.
Je pense que c'était aussi au niveau de la dramaturgie, il y avait quelque chose où la parole du chanteur, en fait, si elle était intéressante quand elle était vraiment seule et les autres paroles, parce qu'il y avait plusieurs personnages, et en fait, devenaient rapidement accessoires et les enjeux, en fait, l'enjeu principal de cette pièce, c'est d'entendre ce monologue intérieur, d'avoir une brèche comme ça qui s'ouvre sur le monde intérieur qu'on a fantasmé de Johnny Hallyday.
Oui, parce que ça parle beaucoup de la solitude quand même, ça convoque des fantômes et à un moment, c'est les quelques voix qu'on avait au tout départ sur ce texte ont disparu, ont laissé la place au vide, à la solitude et aux fantômes.
Et puis c'était aussi une manière d'essentialiser, je pense, et voilà...
C'est-à-dire d'en faire d'une figure presque un mythe, quoi, de faire quelque chose d'un peu mythologique, d'un personnage un peu mythologique.
Oui. Oui, et puis très vite est venue la notion de vanité. Et en fait, on s'est rendu compte que la vanité, elle ressortait plus facilement avec un personnage uniquement sur le plateau, avec cette solitude, avec la scénographie telle qu'elle l'avait pensée, cette longue table qui est comme un banquet de fin de soirée complètement vidé de ses contenus. Les bouteilles sont vidées de leurs contenus, les assiettes sont sales, enfin, tout est en train presque de pourrir, même lui est en train de pourrir au milieu de tout ça. Et c'est commencer à pourrir, c'est une bonne raison de commencer à se poser des questions.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la vie, je vais demander aux auteurs, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'écriture d'une pièce autour d'un personnage aussi populaire qui est... Pourquoi les grands mythes en général, c'est des rois, vous devriez faire une pièce sur Emmanuel Macron, quoi, pas sur Johnny Hallyday.
Notre envie de départ, c'était vraiment de parler de la...
François Hollande, hein, si vous préférez.
Oui. Je sais pas.
Ça sera pas la même pièce.
Non, pas du tout. Non, notre envie au départ, c'était vraiment de travailler sur l'idée du temps qui passe, l'immortalité. Et puis, il fallait trouver une figure concrète pour parler de ça. Et Johnny Hallyday nous a semblé une bonne figure. Et puis, c'était aussi le hasard. On s'est retrouvés à un concert au Zénith à Toulon. donc un concert de Johnny Hallyday. Et c'est vrai que quand on voit arriver ce mec sur scène, je sais plus quel âge il avait à l'époque, mais il était quand même pas très jeune, hein.
Oui, il avait eu une maladie.
C'était après Los Angeles, donc l'épisode où il a eu une espèce d'empoisonnement.
Exactement, il y a eu un empoisonnement et sa tournée a été annulée. Et en fait, c'était la reprise de cette tournée-là. Donc, il n'était pas au meilleur de sa forme, mais c'était la fin de cette reprise de cette tournée.
Et donc, parce que c'est marrant, c'est une question que je n'avais pas du tout préparée. Vous étiez fan ?
Non. Enfin, fan, non, c'est pas par... par
pas du tout.
Non, vous écoutez Schubert dans le TGV, j'ai entendu, dans une vidéo. Non, mais c'est pas grave.
Oui, ça a pu m'arriver, Bachung, d'autres choses. Hein.
Et vous êtes plus fan ?
Non, c'est pas tant ça. C'est vraiment pas la musique qu'on écoute tous les jours, mais c'est vrai que c'est lié à des souvenirs de plusieurs générations.
Moi, j'écoute
aussi.
Pas du tout cette musique. Enfin, j'écoutais pas du tout Johnny Hallyday. Il y avait pas de Johnny Hallyday dans mes oreilles avant d'écrire la dernière
Idole.
Et donc,
du coup, vous avez dû tout écouter.
Après, oui, on a écouté.
Oui, on a écouté. Nous, c'est vrai que ce qui nous a intéressé, c'est la figure de scène plus que la.
Bah oui, vous dites sa figure de scène, mais en même temps, vous le montrez backstage juste. Après, ce qu'on peut imaginer peut-être une fête après concert dans cette pièce.
Mais c'est parce que si nous, ce qu'on a voulu dans cette pièce, c'est le laisser seul, comme disait Pierre-François, à cette table de banquet abandonnée. Et là, depuis on ne sait combien de temps, et nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'est-ce qui se passe quand on est, qu'est-ce qui se passe de l'intérieur quand on est la personne la plus regardée de France, la plus photographiée, la plus applaudie, la plus désirée d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul et ouais, il y a besoin du regard des autres, et c'est quand les spectateurs entrent dans la salle et posent le regard sur cet acteur seul, sur cette figure, sur ce mythe, comme on veut, c'est là qu'il se met à parler, qu'il peut vivre. Sinon, il n'y a rien.
Vous, Pierre-François, oui, c'est bien Pierre-François, il faut que je fasse attention. Gary, vous l'avez abordé comment, ce rôle ? Alors, vous disiez non, j'ai rien écouté ?
Non, j'ai rien écouté, je ne me suis pas documenté particulièrement. Je crois qu'on a vu un documentaire ou des fragments de documentaire, et puis j'ai dû jeter un œil dans une biographie, mais très rapidement, et je n'avais pas du tout envie de rentrer dans une forme de.
Vous n'êtes pas du tout dans l'imitation sur scène, ouais, non ?
Non, surtout pas, je pense que ça aurait été grotesque, en fait.
Ouais, ça peut vite faire concours de sosie.
Oui, voilà.
Ce qui n'était pas du tout l'idée. Et d'ailleurs,
tu ne le ressembles pas vraiment.
Non, on peut le dire parce qu'on a la radio.
Mais ce qui est étonnant, c'est que les spectateurs, à l'issue de la représentation, viennent te voir et disent « on a vu Johnny Hallyday ». Alors que bon, tu ne le ressembles pas, tu n'as pas son âge et tu n'es pas mort.
Je ne dirais pas laquelle des deux auteurs ressemble à Laetitia Hallyday. Comment vous avez abordé le rôle, vous ?
Un peu comme d'habitude, par le texte et puis en écoutant, en travaillant avec les partenaires que j'avais en face de moi. Mais j'ai pas de technique particulière d'approche des rôles. Par le texte, et après justement, c'est ça la question qui a été un peu compliquée, c'est comment est-ce qu'on investissait ce corps, comment est-ce qu'on l'inscrivait dans l'espace, parce qu'en fait, on aurait très bien pu laisser ce chanteur à cette table, assis, et parler pendant une trentaine de pages, seul, devant un public, sans forcément le considérer d'ailleurs, ce public, et on s'est dit quand même à un moment donné, il faut qu'on trouve comment ce corps bouge, il bouge pas mal, et comment...
C'est très physique, comment. Moi, je voulais sortir de là physique. Assez épuisé, je pense.
Mais assez galvanisé, en fait. C'est étonnant. Il y a certains spectacles qui épuisent et puis d'autres qui excitent, qui galvanisent. Et celui-ci est plutôt très galvanisant. Et le fait, en fait, tout d'un coup, faire bouger son corps, c'était aussi permettre au spectateur de voir, je pense, plusieurs âges dans ce corps. C'est ça qui était très important, c'est que le spectacle est quand même assez court, c'est une heure, et en une heure, on n'avait pas envie, je pense, de rester sur une seule temporalité.
Et donc ça, vous faites ça comment, d'avoir plusieurs âges en une heure ? C'est de la technique, c'est du travail d'acteur de base ?
C'est du travail d'acteur de base, c'est de l'imaginaire.
C'est la mise en scène.
C'est du travail de mise en scène, ouais, du travail chorégraphique aussi. On a été, à un moment donné, on a travaillé avec une chorégraphe.
Ah ouais. Moi, ce qui m'avait frappé dans votre incarnation, j'allais dire, dans votre interprétation, c'est que vous avez à la fois le charisme de la star, mais en même temps, vous avez le côté épuisé du type qui est au bout du rouleau. Et ça, je me demandais vraiment comment on arrivait à faire ça. Ça, c'était volontaire chez vous ? Parce qu'il faut qu'il ait le charisme de la star pour être crédible. mais en même temps, c'est la star qui est pas en forme.
Bah oui, il faut qu'il soit. Il y a dans l'écriture même du texte, il y a quelque chose de l'ordre du sex appeal qui est très fort. Il faut qu'il soit très désirable et en même temps pitoyable. Donc il y a ces deux aspects qui sont dans l'écriture et qui apparaissent en fait sur des scènes différentes. Et donc en jouant clairement le pitoyable, en allant clairement à l'intérieur de et en montant les curseurs, en fait, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à travailler, à faire voir. On s'est pas dit que dans une scène on allait montrer les deux choses en même temps. Je crois que c'est la position de plusieurs séquences
tout en étant
bien différenciées.
Après, il faudra que les gens y le voient, mais tout en étant dans un texte très fluide, c'est pas du tout quelque chose de heurté. C'est une scène, c'est comme si c'était pris en temps réel, quoi. C'est un plan séquence.
Voilà, et on passe d'un état à un autre, d'une scène à une autre. Et d'une situation à une autre.
Et d'un âge à un autre aussi, puisque la pièce traverse la temporalité de la vie de Johnny Hallyday.
On parlait tout à l'heure de mythe, on a donc là une star du showbiz, j'ai un trou de mémoire, ce que Edgar Morin appelait une idole, mais on a aussi finalement une métaphore de la vie de tout le monde. Ça, c'était aussi volontaire chez vous ? Finalement, ce qu'il ressent est quelque chose de très commun, la solitude face au destin.
C'était très partagé, en tout cas, oui.
C'était aussi une manière d'écrire, de choisir Johnny Hallyday, c'était aussi une manière d'écrire ses propres questionnements, ses propres turpitudes, et de les inscrire dans ce personnage-là.
Side.
Tied Up Right Now du groupe Parcells.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec Pierre-François Garel, Hélène François et Émilie Vandenamel, c'est ça ?
C'est ça.
Et on parle toujours de La Dernière Idole. Si je vous dis que votre pièce m'évoquait Le Roi Semeur de Ionesco, ça vous vexe ? Oh, le bide ! J'en ai fait le plus beau bide de toute ma vie.
Non, mais...
Elle m'a regardé avec un air ahuri, mais de quoi me parle-t-il ?
Non, mais parce qu'une année, j'ai dû. Quand on était à l'école de théâtre, on a travaillé sur Ionesco. Et pour moi, quand on m'a annoncé en début d'année qu'on allait bosser sur Ionesco, c'était la fin du monde. Quoi. Mais il y a quelque chose, évidemment, du Roi Semeur, de quelqu'un qui meurt à chaque fois.
Et qui ne veut pas.
Et qui ne veut pas mourir.
Qui ne veut pas mourir.
Qui est mais toujours qui va, là.
Mais
qui
va... On n'est pas du tout chez les stoïciens, là. On n'est pas dans l'acceptation.
Ah, pas du tout. On est dans la lutte pour que ça n'arrive pas.
Donc j'en viens à mon Ionesco, je l'oublie ?
Non, moi j'ai adoré Ionesco pendant toute mon enfance. J'étais allé voir Le Roi Semeur et je crois que j'ai un petit truc de Michel Bouquet finalement.
C'est ça. Mais d'ailleurs, oui, on parlait pendant la musique, parce que moi je vous ai vu dans une représentation où vous étiez à moitié debout sur une table. Il y a quelque chose de Michel Bouquet debout au théâtre de l'Atelier à la fin du Roi Semeur, tout à fait. Bon, plus généralement, quels sont les auteurs que vous aimez ?
Tennessee Williams, je dirais.
Hélène.
Au premier. De théâtre, on peut rester.
Ah, oh, vous dites ce que vous voulez. Après mon beat, vous faites bien ce que vous voulez.
Non, moi je dirais Tennessee Williams quand même sur le théâtre.
Moi j'aime beaucoup Tchekhov. J'aime beaucoup. En théâtre, en fait, j'aime pas beaucoup le théâtre. Non, mais c'est vrai. Je préfère
les auteurs
de littérature. Je préfère Bulgakov. Et dans les auteurs contemporains français, c'est vraiment l'écriture romanesque qui me fait quelque chose beaucoup plus que l'écriture théâtrale.
Oui, d'ailleurs, on a failli travailler sur Zola.
Oui,
il y a pas si longtemps.
Voilà, Zola. Voilà. Et puis même, j'ai lu. J'ai des trous de mémoire là, enfin, forcément
c'est
quand on y pense ça ne vient pas.
C'est pas grave du tout.
Mais j'ai lu Alice Zeniter dernièrement, Fritz Zorn, qui est moins contemporain, mais il y a plein de choses.
Il est plus mort, on va dire.
Il est plus mort qu'Alice Zeniter, c'est vrai.
tant mieux pour elle.
Voilà.
Donc jeudi, vous serez au Théâtre National, c'est ça, au Grand Théâtre d'Angers, mm-hmm. pour le festival d'Anjou. Alors, en quoi consiste ce festival ? C'est un festival de théâtre ?
C'est un festival.
C'est la première fois que vous y allez ?
C'est la première fois qu'on y va, donc on est très content d'être invité par Nicolas Briançon qui en assure la programmation. C'est sa dernière année d'ailleurs, il passe le relais l'année prochaine. C'est un festival auquel on n'a jamais été.
Quoi l'enjeu quand on est une compagnie ? Enfin, je sais pas, vous n'êtes pas vraiment une compagnie, mais quand on a une pièce comme ça à monter, qu'on va jouer ?
Nous, c'est de rencontrer le public. Hein. Déjà, le premier truc, quoi, c'est qu'il y ait des gens qui viennent. Et
donc là, vous allez avoir une grande salle ?
Ouais, c'est une très grande salle à l'italienne. Donc, on découvre ça. On y part mercredi pour y jouer jeudi. Donc, on n'a pas vu la salle encore.
Donc là, ça veut dire que vous allez peut-être devoir régler le spectacle au dernier moment.
C'est possible, ouais, qu'on ait des petits réglages au dernier moment. Mais visiblement, c'est on nous a dit que c'était une très belle salle, un grand plateau à l'italienne. Donc, ça fait super plaisir d'être dans un beau lieu. Et puis après, oui, nous, on participe au concours des compagnies. Donc, il y a quatre autres compagnies. Donc, j'espère que le public sera avec nous. Et que,
c'est le public qui vote ?
Alors, il y a un vote du public et il y a un vote du jury aussi. Il y a deux prix, je crois.
Écoutez, on a eu ici un acteur qui est devenu César du meilleur espoir. On a eu un écrivain qui a eu le prix Goncourt. Donc, je suis sûr que vous allez gagner ce concours.
Merci.
On verra. Mais
on revient jamais on ne gagne pas. D'accord. Et on revient si on gagne.
D'accord. Et donc, vous l'abordez comment, par exemple, de jouer les... Alors, vous, mais c'est vrai qu'on est à la radio. Pierre je ne sais plus maintenant ce que dire votre nom. Pierre-François, vous l'abordez comment, votre... Ce passage dans un festival de théâtre. Vous avez peut-être déjà participé à plein de festivals et vous êtes blasé.
Blasé, non, mais enfin, je suis toujours content de jouer. En plus, cette pièce, c'est drôle parce qu'on la joue peu, mais depuis longtemps. Donc là, ça fait un an qu'on ne l'a pas jouée. Donc il faut refaire tout un travail de réapprentissage du texte et on se rend compte qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles intuitions, des nouvelles impressions, des nouvelles envies. Moi, je suis très content d'aller jouer dans ce festival. Ouais.
Puis c'est aussi la première fois qu'on le rejoue depuis le départ de la figure de référence,
voilà.
Quoi, depuis que Johnny n'est plus là. Donc ça va être rigolo.
J'ai oublié de vivre.
terre comme un éclair, brisant les murs du son bouquet de laser.
Il y a quand même chez Johnny toute une thématique dans ses chansons de désespoir, ça va pas, il est abandonné, il a oublié de vivre. Si c'était quelque chose qui vous a intéressé, vous ? Enfin, qui, en tout cas, qui a fait que cette figure-là vous a intéressé peut-être plus que d'autres qui sont plus joyeuses facilement ?
Oui, il y a une forme de solitude, je pense, qui nous a parlé. Et c'est vrai que c'est dans cette volonté d'être toujours sur scène, toujours regardé, toujours applaudi. C'est, je pense que si on faisait hyper rapidement une forme de psychanalyse, je pense qu'il y a quelque chose dans l'enfance, il y a une blessure dans l'enfance.
Il y a un peu d'abandon, quoi. Hein.
Voilà, qui fait qu'on a besoin du regard de l'autre. Et ça, c'est assez touchant.
Et puis même au-delà, j'ai l'impression que quand on écrit une chanson, et pour que ça soit un succès, il faut un succès de crooner, il faut qu'il y ait une identification. Et l'identification passe plutôt par « je vais mal, prenez-moi dans vos bras, aimez-moi ». Et c'est comme ça que ça peut devenir, qui peut aspirer à devenir cette figure de la rock star qu'on a envie d'avoir dans son lit.
Pour le consoler.
Mais c'est ça qui est fascinant chez la star, c'est qu'elle doit être à la fois très loin de chacun d'entre nous et en même temps de pouvoir s'identifier. C'est quelque chose de très paradoxal.
Et on s'identifie dans le malheur, en fait. On s'identifie dans la difficulté à vivre, à surmonter des obstacles. Et c'est difficile de s'identifier à quelqu'un quand juste tout va bien.
Vous, Pierre-François Garrel, j'y arriverai pas, décidément. Comme j'ai peur à chaque fois de me tromper, je réfléchis beaucoup. Comment vous faites pour vous remettre régulièrement dans ce rôle ? Puisque là, vous dites que ça fait un an que vous ne l'avez pas joué, vous avez joué d'autres rôles en même temps. Est-ce que vous le nourrissez de vos autres expériences ?
Je pense que ça se nourrit, de ce que j'ai vécu, de l'année qui est passée, justement, depuis que je ne l'ai pas joué. Ça va certainement être différent parce que j'ai une année en plus dans les pattes.
Vous adaptez le texte au fur et à mesure, là, par exemple ? Vous avez eu envie d'y retoucher ?
Non. On rajoutera peut-être un nom à la fin ?
Oui.
Parce que la pièce se termine par le Pierre-François, le chanteur.
Il dit pour m'endormir, je compte les morts que j'ai rencontrés. Et il y a toute une liste de gens que Johnny Hallyday a croisés.
Donc là, vous rajoutez peut-être un nom. On imagine lequel.
Voilà.
Mais c'est tout, vous ne touchez pas plus le texte.
Non.
Il est sanctuarisé. En tout cas, entre les précédentes représentations, vous n'y avez jamais retouché ? Ou vraiment des virgules, quoi. C'est du même pas.
Ouais, non, on n'y retouche pas. C'est juste cette fin. Ouais, là, il y a un nom à rajouter. Voilà.
Et comment vous vous remettez dans cette énergie-là ? Alors, vous allez travailler. Là, très concrètement, vous êtes en train de la relire. Vous la relisez tous les jours depuis que vous savez que vous allez jouer
à Angers. Oui, j'y ai passé la soirée hier. On se rend compte que la mémoire est de moins en moins évidente, je trouve, à solliciter.
Mais c'est par le texte que vous retrouvez l'énergie ?
Uniquement, oui. Uniquement par le texte. Après, c'est un travail d'imaginaire. Et puis, je pense qu'en fait, je disais la mémoire, effectivement, chez soi, la mémoire, elle est difficile à remobiliser. Mais
alors
une fois qu'on est sur le plateau,
le
corps, lui, il a enregistré tout un tas de choses qui remontent d'elles-mêmes.
Et donc, ça veut dire que là, vous allez être sur un plateau plus grand, par exemple. C'est quelque chose. J'imagine la scène va être plus grande, avec vous avez une plus grande ouverture de scène.
On a déjà joué sur des grands plateaux, donc ça,
oui,
ça
en général,
ça, c'est
on
pas
est sur des
problème.
Grands plateaux quand même.
C'est un spectacle qui s'adapte assez bien à différentes.
Le réalisateur parfois est un peu capricieux, vous savez, mais j'ai l'habitude, allez-y.
D'accord, oui, c'est un
spectacle. S'il veut que j'arrête, il envoie le générique, et il sait que c'est le signal, donc il n'a qu'à le faire.
Allez-y, continuez.
Mais si, on vous censure pas, allez-y.
Non, je disais que juste c'était un spectacle qui s'adaptait à plusieurs ouvertures de plateau.
Et est-ce que, pour finir, vous allez bientôt jouer à Paris ?
Bah on espère que ça va.
Si vous gagnez le concours, là, vous avez vos chances. Rien que le fait d'y être.
Mais même sans gagner le concours.
Mais même sans gagner le concours, je pense qu'il y a.
Mais ouais, il faut.
Non, mais voilà, on ferme pas la porte. Non, puis on a envie de le jouer. C'est une pièce qu'on aime beaucoup, qui est très proche de nous, qui est touchante et qui raconte un vrai truc.
Et vous êtes libre à la rentrée, Pierre-François, vous pouvez aller.
Pas du tout.
C'est toujours ça la question, l'emploi du temps de Pierre-François.
Ouais, voilà, c'est ça les stars. Voilà, c'était La Relève, épisode 17, saison 2. Merci à vous trois d'être venus. On pourra donc vous voir jeudi au festival d'Angers, au Grand Théâtre d'Angers, à 19h. Ça sera le jeudi 21 juin et je ne peux que vous recommander de prendre un TGV, et même s'il n'y a pas de TGV, d'y aller à pied. Cette semaine, à la réalisation, il y avait le phare farceur Antonin, non, c'était toujours le grand retour. Vous retrouverez tout sur la page de La Relève, sur le site de Radio Campus Paris. Vous retrouvez maintenant le programme musical de Radio Campus Paris. Et à 19h, comme tous les jours, c'est l'heure de la matinale. Nous, on se retrouve dans 335 heures. Merci, à bientôt.